Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante, c'est l'heure de Time Sport, la dernière de cette fameuse semaine. Et c'est le début des vacances de fin d'année, justement. On espère que vous en passerez de bien de bonnes de ces vacances. Alors justement, nous sommes justement avec toute l'équipe de Time Sport ce soir pour parler, eh bien, ce vendredi 17 décembre 2021, de la violence dans les stades. Au menu de cette émission, on verra aussi les leçons de ce début de saison en Ligue 1 Uber Eats, sans oublier Didier Deschamps, eh oui, l'homme fort des Bleus, et son envie de tout rafler, on l'espère en tout cas, pour le plus grand plaisir des supporters de cette fameuse équipe de France. Et oui, à l'approche de ce Mondial 2022 au Qatar, qui a vu justement cette fameuse Coupe arabe, bien aimée par notamment le continent africain, mais aussi par tous les amoureux de ce ballon rond. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la fanpage Facebook, Twitter ou encore Instagram. Allez, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Ce soir, pour m'accompagner, on aura entre autres Louis-Marie et Yasmine. Bonsoir à vous deux. Ça va, Yasmine ?
Ça va super. Très contente d'être là. Week-end peut-être sportif. Contente surtout d'être là avec Louis-Marie.
Louis-Marie, il est là. Oui. Louis-Marie, tu resteras sur Paris ? En région parisienne ou sinon tu partiras?
Je rentre chez moi. Les vacances, c'est en famille. Noël, c'est en famille. Donc, je redescendrai la semaine prochaine. Du côté de Toulon, mais très content d'être là cette semaine, effectivement, avec Yasmine. C'est la deuxième fois de la semaine qu'on est ensemble.
C'est très cool.
Et je commence, j'ai l'impression, à prendre mes marques. C'est la troisième fois de la semaine que tu m'invites. Je vais finir par demander un contrat à Beurre FM.
Bien sûr. Louis-Marie, il est là. Il est toujours présent. Et oui, à l'appel. Et Yasmine aussi, peut-être, elle prendra des vacances. En tout cas, nous, on restera, Yasmine.
On fera l'émission,
il y a le Boxing Day.
On redescend dans le sud et puis on va aller voir un petit peu l'OM.
Ouais.
Mais moi,
l'Olympique de Marseille. Alors.
Je voulais te dire quelque chose, c'est que le week-end dernier, il y avait un super reportage sur Canal. C'était dans les, dans les yeux de l'homme en noir, il me semble. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils sont revenus sur effectivement l'histoire de Babak Rafati. Tu sais, c'est un arbitre qui arbitrait justement dans le championnat allemand et qui a été élu pendant 3 saisons consécutives pire entraîneur
pire arbitre du
championnat. Et c'est un arbitre qui a fini par faire une tentative de suicide par la suite, et j'ai trouvé j'avais complètement oublié son histoire en fait, et d'avoir revu ces images là, son témoignage aussi.
Il était iranien, je crois.
Moi, ça m'a un petit peu bouleversée, et je me suis mise un peu à leur place, et finalement c'est que des hommes quoi.
C'est des hommes qui font des erreurs
effectivement.
On oublie la pression, on parle des arbitres.
Cette violence aussi, cette pression.
Vu qu'on va parler de la violence dans les stades. Je pense que l'arbitre a un rôle clé dans cette gestion-là. Et quelque part, on a tendance à un peu trop oublier son rôle, un peu trop oublier la pression qu'il subit, les insultes qu'il subisse. Tout ça pour un salaire modique. C'est quand même les oubliés du football, alors que sans eux, ne se passerait pas.
Il n'y aura pas de match.
Non, mais il y aurait pas de match. Et il ne faut pas oublier que ce sont des passionnés, surtout.
C'est vrai.
Parce qu'on a tendance à les critiquer, mais c'est avant tout des passionnés de football. C'est bien parfois de souligner leur importance.
Bien sûr. Oui, cette violence aussi dans les stades, on en voit. Cette crise sanitaire, on est là. On l'a vu depuis le début de saison dans cette Ligue 1 Uber Eats, c'est fou. On a l'impression qu'on est devenu, le championnat européen le plus dangereux, quoi, si je peux me permettre.
Le plus dangereux, non mais.
Ouais.
Il y a un moment.
Ouais, les faits quand même.
On a les résultats qu'on mérite.
Ouais.
Et concrètement, je suis désolé, s'il y a une chose qui a marqué ce début de saison,
ces trois premiers mois.
C'est cette violence dans les stades.
Ouais.
Finalement, on n'a parlé que de ça. Il y en a eu dans tous les stades. Mais comment ça se fait qu'on ait encore des problèmes à Lyon-Marseille? Pourquoi on les a eus? Parce que la Ligue n'a pas été courageuse, a pris des sanctions ridicules et risibles lors de Marseille-Nice. Ils auraient eu l'occasion de régler le problème, tout ou partie, tout du moins, en tapant très très fort. Et d'ailleurs, c'était très rigolo de voir que c'est ce qu'appelait Jean-Michel Aulas de ses voeux. Et que finalement, lorsque c'est arrivé dans son stade, bizarrement, tout était différent et il n'avait plus du tout le même discours. Il y a un moment donné, quand est-ce qu'on va sévir? Quand est-ce qu'on va arrêter de laisser les supporters d'ailleurs on ne peut pas appeler ça les supporters, ouais. se conduire comme des sauvages dans les stades, se conduire comme des animaux, et encore c'est faire vraiment pas honneur aux animaux.
Ouais.
Donc il y a un moment, soyons sévères. Et ça veut dire quoi être sévère?
Alors,
on parle de sanctions.
Mais
c'est-à-dire qu'il faut que le club prenne cher. Concrètement, c'est lui qui est responsable. Ça se passe dans son stade. Il faut, comme le disait notre ami Jean-Michel Aulas, avant d'oublier ses propres propos, il faut que le club soit sanctionné de points. Clairement. Alors déjà, individuellement, les personnes qui font des actes inciviques, voire violents dans les stades, ils peuvent être identifiés. Une fois qu'ils sont identifiés, ils doivent être interdits de stade pour des durées très longues, voire avoir des poursuites pénales. Ça, c'est pour le côté individuel de la chose. Mais le côté collectif, c'est le club qui doit prendre. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que si le club, demain, moi honnêtement, alors, ce que j'aurais fait sur Nice-Marseille,
oui.
j'aurais dit Nice, de toute façon, à match perdu, quoi qu'il arrive, et en plus de ce match perdu,
oui.
ils vont prendre 3 ou 4 points de pénalité. Donc ils vont partir la saison à moins 7,
voilà.
moins 5,
ah ben,
moins
oui.
6.
Là,
et 6 mois d'interdiction, et 6 mois de huis clos.
Oui.
Est-ce que tu penses qu'après ça, il y a un supporter qui fera le mariage dans une salle? Parce que je pense que les supporters feront la police et feront le ménage chez eux.
Ouais.
Et que les clubs feront le ménage. On a beaucoup critiqué Le Prou avec son fameux plan. Vous comprenez, Le Prou, il a vidé les supporters, le parc de ses vrais supporters. Maintenant, il n'y a plus d'ambiance. Super. Il a enlevé des néo-nazis, des gens racistes et des gens agressifs qui insultaient tout le monde dans les stades, qui sont quand même allés jusqu'à tuer. On n'oublie pas ce qui s'est
Bien
passé
sûr.
Au PSG.
Ouais. Sur
donc,
match de Coupe
et
d'Europe,
on arrive à critiquer le plan Le Prou en disant il n'y a pas de vrais supporters. Mais enfin, si les gens qu'il a enlevés, c'est des supporters, on ne peut plus aller au stade. Ce sont juste des gens dangereux, ce sont juste des délinquants. Il y a un moment, arrêtons d'être tolérants envers ça.
Bien
et
sûr.
C'est au club de se prendre en main. Et si le club ne se prend pas en main, il faut le forcer à se prendre en main. Et pour cela, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut frapper fort, très très fort.
Ouais.
Et là, moi, je suis persuadé que les exemples qu'on a eus à Lyon ne seraient jamais arrivés si la Ligue avait, excusez-moi l'expression, porter ses couilles en juillet
oh,
dernier.
Oh, quand même, tu peux
mais
pas.
Non.
Ouais, mais non. Bah oui, toi aussi, Yasmine. Alors, réaction face à cette violence dans les stades.
Alors, il faut quand même qu'on arrive à distinguer les violences entre supporters et les violences envers les joueurs. Ce sont pas des violences de même nature, on va dire. Et pour revenir à ce que tu disais, Louis-Marie, là les sanctions qui ont été données suite au match Lyon-Marseille, pour moi c'est catastrophique. C'est-à-dire que ça fait jurisprudence, quelle image tu donnes du championnat français, et surtout quand tu fais une différence, quand tu compares par rapport au championnat anglais, on tape pas assez sur les clubs. Il faut distinguer les clubs qui sont victimes justement de ces violences-là et les clubs les supporters des clubs qui font effectivement ces violences. Donc pour moi c'est très compliqué, et finalement le fait qu'il y ait eu ce Covid j'ai perdu mes mots.
Ouais, elle a non, perdu mais, ses mots. Alors,
non mais le Covid,
ouais,
effectivement, en fait, qui s'est passé avec
le
Covid? Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, c'est que le Covid, concrètement, il a enfermé tout le monde et les gens trouvent un exutoire aujourd'hui dans les stades.
Exactement.
Ils trouvent un exutoire.
Positive ou négative.
Alors.
Et là, finalement, on a eu plusieurs cas négatifs, ce qui fait que bon, ça a été très mal organisé, mais surtout, j'ai l'impression qu'avec ce Covid, on a perdu un peu, on va dire, en compétences peut-être organisationnelles aussi au niveau des clubs dans les stades.
Ouais.
Et il faut pas oublier que bon, les stades aussi, c'est un lieu.
Ah, je suis pas trop d'accord avec toi, parce que ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que ça existe. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on parle de ces problèmes-là. Effectivement, tu as raison, c'est un reflet de la société. Donc, peut-être que la société, elle est plus vénère en ce moment. Elle est plus agressive. Elle est plus tendue à cause du Covid. Donc, effectivement, l'expression est plus forte et plus agressive, elle aussi. Mais il y a un moment. Moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Mais il va quand même falloir se pencher sur ce problème de manière réelle. Parce que il y a un moment, quand on entend des gens nous expliquer que quand il y a des insultes homophobes dans un stade, c'est du folklore. Tout ça, tout est lié. On peut pas continuer à laisser les supporters traiter tout le monde. Je vais pas sortir les insultes, je vais encore me faire houspiller. Mais voilà, on sait de quoi ils insultent tout le monde. Des insultes homophobes, des insultes raciales. Tout ça, ça passe.
Il n'y a pas forcément une réflexion sur comment arriver à gérer le problème. Là, on est plus dans il y a des faits, il faut sanctionner. Il faudrait peut-être réfléchir à autre chose, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, notamment, je sais pas, par exemple, par rapport à ces bouteilles d'eau, est-ce qu'on pourrait pas finalement complètement les enlever ou enlever les bouchons, enfin.
Non, mais il faut toujours passer.
Justement, solutions, au lieu de sanctionner mais systématiquement.
Le problème, c'est que, honnêtement, si on doit en venir à plus pouvoir boire dans un stade, plus pouvoir s'hydrater, parce que vous comprenez, il y a trois abrutis, il n'y a pas d'autre mot.
Bien sûr.
On prend les bouteilles qui vont les lancer. Non, la réalité, c'est qu'il faut éduquer les gens, et l'éducation, parfois, ça passe aussi par la sanction. Il faut que les gens se disent, si je contreviens aux règles, ça n'est pas moi que je pénalise. C'est déjà moi, bien évidemment, je serai pénalisé individuellement, parce qu'on va me retrouver. Et quand on voit les sanctions qui sont prises, c'est pas toujours très sévère non plus en termes pénal. Mais on va me retrouver moi, mais en plus, je vais complètement handicaper mon club.
Ouais.
Voilà ce que je vais faire. Je vais pas handicaper.
Les supporters l'oublient parfois.
Ouais. Et donc, je vous prie de croire que les supporters feront la police eux-mêmes dans les stades.
Ouais.
Les ultras, ils vont dire non, attendez, les gars.
Ouais, certains, ouais.
Parce que ouais, eux, ils vivent pour leur club.
Bien sûr.
Eux, ils vivent pour leur club. Donc, il y a un moment, en vivant pour leur club, ils savent très bien que s'ils perdent 3 points, c'est la Ligue des Champions potentiellement qui s'envole. C'est des revenus énormes. Je voudrais croire que Aulas, si on lui tape très fort sur les doigts, il n'y aura plus jamais un problème à Lyon. Et le souci, c'est qu'en même temps, c'est toute la dualité, c'est que ce sont ces supporters extrêmes qui dépensent pour le club, qui consomment pour le club et qui font vivre le club.
Ah ouais.
Et qui, pour certains, une frange extrême d'entre eux, eh bien, faut créer aussi des problèmes. Donc, ce sont les mêmes.
Bah, faux.
Donc, il y a un moment, il faut faire le ménage là-dedans et qu'ils s'autodisciplinent.
Le ménage dans les clubs et dans les instances peut-être du football français, Yasmine, Louis-Marie, concernant cette violence.
Je comprends pas pourquoi l'OM n'a pas gagné de manière automatique ce match contre Lyon.
Oui.
J'ai l'impression qu'on a été limite autant sanctionné finalement que Lyon. C'est pas normal. Tu peux pas laisser passer ça. Là, j'entends récemment que Dimitri Payet voudrait arrêter de parler à la Ligue. Bon, ok, mais ça va changer quoi, finalement? Donc, moi, je trouve ça réellement dramatique.
Non, mais sans même rentrer dans le cadre de l'OM en particulier, qui ont été effectivement à chaque fois attaqués.
C'est le dernier événement en date.
Compris, hein. Il y a un moment, on accepte tellement de choses depuis des années.
Bien sûr.
Forcément, à un moment, il y a toujours des trucs qui sont lancés au moment où les joueurs tirent les corners. Il y a un moment, on le sait. Là, cette fois-ci, c'est tombé sur sa tête. Je me souviens de je sais plus quel joueur qui avait pris un briquet aussi.
Aussi.
Non, mais ça arrive tout le temps. Et à un moment, on le sait.
Au revoir. Avec les instances du football français, ses clubs aussi.
Faut être sévère, c'est tout.
La Ligue 2, la Ligue 1. Allez, c'est promis. On s'attardera justement sur ce football-là et aussi sur ces instances. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec un nouveau sujet.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour, après cette première pause, nous sommes toujours avec Yasmine, notre consultante, et aussi Louis-Marie qui m'accompagne jusqu'à 21h en ce vendredi soir. Alors, on a parlé des violences dans les stades, on va s'attarder sur cette Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Les leçons en tirées, justement, avec ce début de saison tonitruant, que ça soit avec les supporters, mais aussi à travers les stats. Et oui, et aussi le beau jeu. On l'espère, il y en a eu. Mais alors, si, en
jeu,
tout cas.
C'est
alors, Louis-Marie.
C'est marrant que tu me parles de ça, parce que parler de beau jeu dans la Ligue 1.
Ouais.
Moi, il y a un truc dont j'aimerais parler, c'est que ça me fait toujours rire en début de saison, quand j'entends...
On espère, on est toujours...
Les commentateurs qui s'esbaudissent devant le jeu cette année de 3, de Clermont, c'est formidable. Ils vont se maintenir en jouant. La réalité, c'est comme d'habitude. Les équipes, personne ne se maintient en jouant, c'est pas vrai. Tous les ans, on trouve ça formidable. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec 3 et Clermont qui luttent pour le maintien. La réalité, c'est que pourquoi les clubs comme Troyes et Clermont, ce que sont mes exemples du jour, fonctionnent bien en début de saison? C'est parce qu'ils montent de D2, ils ont un effectif insangé, ils sont sur une bonne dynamique, et le début de saison leur est favorable. Et après, ça s'essouffle. On l'a vu aussi, beaucoup d'équipes avaient de bonne volonté, de bonnes intentions de jeu en début de saison, ça s'est essoufflé aussi, et ça commence à resserrer. Regardez notre ami Sampaoli, à Marseille, ça joue défensif.
Yasmine n'est pas d'accord.
Ah, tu vois du beau jeu en ce moment à Marseille.
En tout cas, Marseille est deuxième.
C'est défensif. Le mec qui joue avec 3 défenseurs centraux, 2 latéraux, puis 3 milieux défensifs. Il n'y a pas d'attaque à Marseille. Il joue que sur l'arrière.
C'est le bordel à Marseille, mais c'est beaucoup plus plaisant qu'il y a deux ou trois saisons. Enfin, moi, je m'ennuie moins, en tout cas en regardant l'OM cette saison, que c'est... la saison précédente quand même.
Sans parler d'ennui, mais on est quand même très très loin aussi, du jeu champagne qu'on nous annonçait avec Sampaoli, disciple de Bielsa. C'est un... il va faire jouer cette équipe. Excusez-moi, cette équipe, elle ne joue plus. Elle a joué au début, c'est vrai. Et puis elle a arrêté. Puis il s'est dit, maintenant, il faut que je gagne des matchs. Bon, voilà, on arrête de jouer, on ferme la boutique.
De manière...
on met que des défenseurs. Eh bien, il s'est très très vite adapté à la Ligue 1, sans problème. Il n'y a pas de souci.
Yasmine.
De manière générale, moi je trouve que quand même, cette saison, j'ai l'impression que les équipes de Ligue 1 sont beaucoup plus compétitives.
En plus, même en Coupe d'Europe, ça va.
Ah, mais compétitive, oui. Mais j'ai pas dit, je parlais de jeu.
Mais que tu te l'as, on parlait en plus la dernière fois.
Compétitive par rapport au PSG aussi, parce qu'après
PSG, c'est...
ils ont combien de points d'avance? Ils ont combien de points d'avance?
Ouais, mais
13.
Pour
Marseille, je crois.
L'an dernier,
ouais.
Alors tu es en train de me dire qu'ils étaient plus compétitifs, alors que l'an dernier, à ce même moment de la saison, ils étaient troisième. Ils étaient encore quatre à pouvoir gagner le titre. Là, ils sont combien? Ils sont un.
Quand tu regardes les équipes qui jouent contre le PSG, j'ai l'impression qu'elles tiennent un peu plus tête au PSG qu'avant.
À la fin, c'est le PSG qui gagne.
Ouais.
L'an dernier, le PSG a perdu plus de matchs, alors que ça jouait peut-être mieux.
Alors, est-ce que le PSG est moins bon, ou est-ce que les équipes de Ligue 1 sont meilleures quand même
cette
saison?
Moi, cette année, honnêtement...
bien meilleur, il y a Messi en plus.
Moi, cette année, très sincèrement, je trouve que la Ligue 1, ils sont compétitifs sur la Coupe d'Europe.
Ouais.
Ça, c'est très très bien.
On
ils
le note
jouent
bien.
Tous le jeu, c'est super.
C'est sûr.
Ça s'en ressemble peut-être aussi en Ligue 1, du coup, parce que peut-être qu'on voit bien que les clubs qui ont fait l'effort, comme Lyon, comme Lille, eh ben, ils sont loin au classement. Ils sont en difficulté. Donc c'est très, et que Marseille qui a joué le jeu, hein, mais bon, qui a pas mis toutes ses forces non plus et qui s'est pas qualifié, bah pour le coup est un petit peu mieux classé. Donc c'est pas anodin. Après, moi le seul truc, c'est que cette Ligue 1, pour moi, elle est quand même complètement devenue à deux vitesses. Aujourd'hui, il y a une équipe au-dessus et après il y a 10 équipes qui jouent l'Europe et 5 équipes qui jouent le maintien. Bon, bah, cette année tout peut arriver. Pour ça, quand on me dit l'OM est deuxième, très bien. Combien de temps ça va durer? Moi, je ne sais pas si l'OM peut très bien finir dauphin, mais je ne mets pas ma main à couper que Lyon ne peut pas faire un retour et finir deuxième aussi, vu qu'on a l'impression que les équipes n'avancent pas derrière.
Ouais.
Elles ont toutes des séries. Elles font trois bons matchs, puis trois matchs médiocres. Il n'y a pas de... Je trouve, c'est marrant, mais je ne trouve pas qu'on retrouve ce qu'ils ont en Coupe d'Europe, à savoir une vraie densité. Peut-être que maintenant que la Coupe d'Europe est en suspens, ça va aller mieux, mais cette Ligue 1, moi, elle me laisse encore...
Pas.
C'est pas qu'elle m'inspire pas,
c'est que
on a toujours plein d'espoir en début de saison et qu'on va voir que malgré tout, ça va fermer le jeu, ça va devenir défensif. Il y a qu'à voir, les équipes qui marquent beaucoup de buts, c'est pas les meilleures. Regardez Bordeaux, ça marque, très bien. C'est l'équipe où il y a le plus de buts pendant ces matchs. Leur position n'est pas enviable pour autant. Donc il y a un moment, qu'est-ce qui va se passer cet hiver d'ailleurs à Bordeaux? Ils vont recruter derrière et ça va être leur priorité.
Ouais, s'ils arrivent, hein.
Oui, je n'ai pas trop de doutes.
Ouais.
Moi, je suis quand même très contente de voir Lens et Strasbourg, justement.
Strasbourg, 7e place.
Oui, Lens 6e également. Ouais. Donc, moi, je suis très contente de voir ces équipes-là dans le milieu du classement en Ligue 1. Pour moi, je me rappelle d'il y a 10-15 ans. Enfin, Lens, c'était c'est une ville de foot aussi. Et de les voir en Ligue 1, moi, je trouve ça merveilleux. Après, effectivement, le PSG sont très loin devant. C'est pas impossible de les concurrencer. On l'a vu avec Lille. Pour moi, tout est possible encore.
Tu penses sérieusement que le titre peut échapper au PSG?
Tout est possible. Tout est possible.
La saison n'est pas terminée.
La saison n'est pas terminée.
À la moitié, quand
même. Ouais, ça va. T'as
la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, ça passe déjà à deux matchs pour le PSG. Donc,
tu sais pas ce qui peut arriver. Hein. Tu sais très bien que au PSG, ça dépasse le cadre du football. Enfin, le PSG dépasse le cadre du football. Ils peuvent être déstabilisés. Imaginons que il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur.
D'accord, mais de là à perdre 13 points d'avance. Alors,
pas forcément 13 points, mais bon.
Ils les ont, les 13 points d'avance. Donc, il y a un moment, il faudra les perdre.
Hein. Effectivement.
Il faudra même en perdre plus parce qu'il y a peu de chances qu'une équipe gagne ses 18 dernières rencontres ou ses 19 dernières rencontres.
Aussi.
Il faut être réaliste.
Aussi, mais t'as Marseille quand même qui est très bien placé.
Mais qui a plus
forcément de.
Non, mais Marseille, ils sont.
De match.
Mais non, ils ont encore la Coupe d'Europe.
Ils ont cette Coupe d'Europe. Qui est d'ailleurs largement à leur portée, je pense. D'ailleurs, qui peut-être, effectivement, Bilal serait peut-être annulé. J'ai entendu peut-être un report un trucage, je n'en sais rien. Mais ce serait là d'ailleurs aussi un peu dramatique. Donc je pense que Marseille a vraiment une carte à jouer sur le.
Mais une carte pour être deuxième si tu veux, mais pas une carte pour être premier.
C'est trop.
Là, faut que tu enlèves tes œillères de sportiste, quand même, Yasmine.
Ouais. Alors, Yasmine,
ça,
faut être sérieux.
C'est pas compliqué, Yasmine.
C'est impossible.
Non. C'est de l'espoir. Non, je pense pas. C'est de l'espoir. Il faut peut-être que c'est un bon mercato. T'as Dieng qui peut exploser encore.
Non, mais le problème, c'est que c'est pas, Marseille peut faire une très bonne partie de saison. Ils ont trop de retard. Point. Le PSG lâchera pas 13 points. Lâchera pas 20, 25 points, parce que c'est ce qu'il faudra, parce que Marseille fera pas un carton plein. Ils lâcheront pas 25 points en match retour, donc c'est pas possible. Mais bon, mais tu parlais de Strasbourg, et là je te rejoins, Strasbourg c'est super ce qu'ils font cette saison, c'est une des vraies c'est pas une bonne surprise, parce que la réalité, quand tu regardes leur effectif, ce qu'ils ont devant, de quoi on parle ? Diallo c'est un super joueur, Ajorc c'est un des meilleurs avant-centres du championnat, ton joker c'est Gamero, sur les côtés t'as Thomasson, Lienard, t'as Aoulou qui est revenu dans le cœur de jeu. Ils ont une super équipe.
Leur dernier match contre Marseille, je les ai trouvés très très plaisants. Enfin, c'était la première fois que je les voyais jouer de la saison. J'ai trouvé que il y avait quand même du jeu. Il y avait de très bons joueurs, techniques, etc. Et puis devant,
il y a pas beaucoup d'équipes qui a un tel potentiel offensif par rapport à que Strasbourg. Hein. Quand on enlève PSG, moi je suis désolé. Les attaquants de Strasbourg, je les trouve meilleurs que les attaquants de l'OM. Cette année, par exemple.
Ouais.
Excusez-moi, Ajorc, c'est un super joueur. L'an dernier, il marque 16 buts en championnat. Il est reparti pour faire la même chose cette année. C'est une vraie valeur sûre. Moi, Milik, j'adore ce joueur. Enfin, le Milik de l'OM, pour l'instant, il a du mal. Il est souvent blessé. Moi, j'échange volontiers Milik et Enrique contre Ajorc et Diallo. Hein. Ça, c'est des superbes joueurs. C'est des joueurs très, très sous-cotés. Hein.
Tu me lances sur Luis Enrique en le voyant jouer justement contre Strasbourg. J'ai trouvé que même son pressing était ennuyant. C'était pas possible. Moi, j'ai trouvé que ce joueur était très moyen. Si on peut parler d'une erreur de recrutement de la part de Longoria, ça serait sur Luis Enrique.
Ah, je vais être un peu moins définitif parce qu'il est encore jeune.
Ouais,
après, c'est ce qu'on a toujours dit de l'OM. L'OM n'est pas une équipe de jeunes. Point. C'est trop rare.
De Brésiliens aussi. Ou de Brésiliens aussi.
Non, mais c'est pas une équipe de vieux. C'est qu'il faut quand même il faut des épaules pour jouer à l'OM. Il faut il faut un caractère, il faut avoir
les joueurs qui sont en place. Non.
Il faut avoir les cuirs tannés. Il y en a, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir bourlingué un peu. Ouais. C'est très rare, à part les jeunes qui sortent du centre. Et encore, il y en a tellement peu qui sortent que bon, l'exemple est rare. Mais c'est très rare, les jeunes qui arrivent à l'OM et qui performent tout de suite. Ça prend énormément de temps. Luis Enrique, il arrive à 19 ans ou 18 ans. C'est pas possible.
Moi, j'ai plus l'impression que c'est les Brésiliens qui réussissent pas à l'OM.
Ah, c'est pas faux, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'ai pas souvenir de Brésiliens extraordinaires à l'OM. Mais. Bon, au-delà de ça, on peut quand même se dire que les jeunes à l'OM, c'est compliqué. Luis Enrique, c'est compliqué. Et beaucoup de joueurs ont mis beaucoup de temps à s'imposer. L'OM, c'est une équipe qui a besoin de joueurs expérimentés qui ont du mental.
Mais Louis-Marie, l'OM a été racheté
de Marseille, la Ligue 1 Uber Eats.
Ouais. Donc, ça change quoi qu'ils étaient rachetés?
Ils vont investir justement dans le centre de formation, etc.
Non, mais le centre de formation, c'est une chimère à l'OM. Ils n'ont jamais sorti personne. Ils ne savent pas former l'OM. Il faut arrêter.
On va essayer de déteindre sur l'Olympique de Marseille parce qu'on a Yasmine ce soir avec nous et c'est pas trop trop bon. Hein, on parle que de l'Olympique de Marseille. On est parti sur le Paris Saint-Germain, cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. On va stopper Louis-Marie. On a Rennes, troisième place. Les Aiglons, les Niçois, quatrième. Cinquième, les Montpelliérains, tu le disais. Les Saint-Maur, sixième. Septième, Strasbourg. Monaco, huitième.
Nice, beau projet.
Neuvième.
Nice, très beau projet, tu vois, typiquement.
Nantes,
je trouve que l'équipe de Nice.
Dixième.
L'équipe de Nice, elle est beaucoup plus intéressante que beaucoup d'autres équipes.
C'est pas gagné pour Galtier. Hein.
Il y a un super entraîneur. Monsieur Galtier. L'équipe qui peut finir deuxième du championnat, moi, je mets plus facilement un billet sur Nice que sur Marseille. Franchement.
Carrément.
L'équipe, elle est hyper complète.
Ouais.
Il y a des joueurs. Pour le coup, il y a un environnement un peu plus favorable à l'éclosion de jeunes talents.
Ouais.
Et ils en ont, des jeunes talents. Alors, il va falloir voir ce que donne, si Dolberg peut se réveiller un peu. Parce qu'il a ce problème de diabète qu'il a révélé cette année qui pose problème. Mais derrière lui, il y a quand même beaucoup de gens qui marquent. Il y a une vraie équipe, il y a une super équipe à Nice, avec des défenseurs qui sont brillants. Franchement, je vois beaucoup plus Nice deuxième que Marseille. Je mettrais bien un petit billet dessus, ça pourrait être mon pari sur la deuxième partie de saison.
Ouais, pourquoi pas. Allez, justement, on va essayer de... On va essayer de terminer ce sujet et on va marquer d'une courte pause la dernière de cette émission avant de revenir sur l'antenne de Beur FM. Et oui, avec Didier Deschamps et les Bleus. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, 20h, 21h, toujours en compagnie de notre consultante Yasmine et Louis-Marie. Allez, place au dernier sujet de cette émission,
Time Sport, le mode pressing.
On a parlé de la violence dans les stades, mais aussi de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. On va s'attarder sur Didier Deschamps et ses hommes, justement, et son envie de tout rafler. Pourquoi pas encore remporter cette fameuse Coupe du Monde du côté du Qatar?
C'est normal, c'est l'équipe de France, championne du monde en titre. Il a des ambitions, il a déjà tout gagné avec, avec la France. Il a également les armes pour... avec un trio offensif énorme, avec un très gros collectif. J'espère juste que les joueurs avec qui il a eu l'habitude de travailler, d'avoir aligné, seront en forme et ne seront pas forcément aussi blessés pour cette Coupe du Monde. C'est le risque. Il y a énormément de matchs qui vont arriver. Des joueurs qui jouent de grosses compétitions aussi, la Ligue des Champions, l'Europa League, etc. Donc, ça va être compliqué. Je pense que ça va être un mondial beaucoup plus compliqué que le mondial 2018. Tout le monde attend la France. Tout le monde sait comment joue la France. Et ça sera pas facile. Ça sera pas facile pour l'équipe de France.
Alors, je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire. Tout le monde sait comment joue la France. Et ben moi, je suis pas sûr. Ouais. Parce que concrètement, pour l'instant, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on gagnera pas la Coupe du Monde en jouant comme en 2018. C'est marché une fois, le coup de la surprise, de la défense et la projection, ça suffira pas. Je l'avais dit avant l'Euro et c'est ce qui s'est passé. On peut pas gagner deux fois de la même façon. C'est compliqué. Et pour l'instant, tu dis on sait comment il joue. Ça fait trois matchs, en fait, qu'il a changé sa formule. Est-ce qu'il jouera comme ça à la Coupe du Monde? C'est très difficile de savoir parce que son 3-5-2, est-ce qu'il va fonctionner de la même façon? Est-ce qu'il va laisser à droite? Enfin, il y a plein d'incertitudes quand même dans cette équipe. Donc oui, on peut la gagner. On restera un des très grands favoris. Et en plus, je ne vois pas trop d'autres nations sortir du lot. C'est peut-être aussi notre chance.
Oui.
Il
n'y
a pas de grands favoris derrière, à part nous, finalement. En revanche, il ne faut pas oublier quand même que le dernier à avoir conservé son titre en Coupe du Monde, il faut remonter à 1962. C'était le Brésil en 62, donc contre la Tchécoslovaquie. Ça remonte un petit peu quand même. Conserver son titre en Ligue des Champions en Coupe du Monde, c'est très 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 compliqué. Alors les armes, oui.
Les Allemands ont essayé, les Argentins aussi.
Et tous, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes.
Ouais,
ça n'a pas marché. Il n'y a pas d'équipe qui a réussi à la conserver. Et généralement, même l'équipe qui gagne, très souvent, se fait sortir au premier tour au coup suivant. Donc c'est vraiment très très difficile d'être performant, ne serait-ce qu'après la Coupe du Monde. Alors, il y a un truc dans cette équipe de France qui est intéressant.
Alors c'est quoi?
C'est qu'elle a gagné alors qu'elle était en avance sur les prédictions. Quand on commence la Coupe du Monde 2018, on se dit, c'est une équipe jeune qui est là pour apprendre et elle sera forte en 2022. Et c'est rare une équipe, un peu comme si les Anglais avaient gagné l'Euro cette fois-ci. Tu vois ce que je veux dire? Les Anglais, ils n'étaient pas prévus encore. Ils sont une équipe jeune. Ils ne s'étaient peut-être pas prévus de gagner aussitôt. Ils n'ont pas gagné. Nous, on a gagné. Et finalement, l'équipe arrive à maturité après avoir gagné. Donc, c'est ça qui va être intéressant à constater. Est-ce qu'ils vont réussir finalement à confirmer? Ça va être intéressant, ça va être la Coupe du Monde cette fois-ci de Mbappé. Ça doit être la Coupe du Monde de Mbappé.
Bien sûr.
C'est lui le patron. Parce que Benzema, ça doit être le distributeur, mais le vrai patron, celui qui doit faire gagner l'équipe, ça va être Kylian. Et il faut reconnaître qu'en ce moment, il est très très en forme, donc on peut y croire. Mais je sais pas, moi je suis très... J'ai hâte de voir ça, déjà. Et puis il y a quand même quelque chose qui plane au-dessus des champs, c'est l'ombre envahissante de Zidane.
Bon, ça lui met la pression, à ton avis?
Je pense que oui, ça lui met la pression. Mais si, parce qu'il a envie de rester, Deschamps, en fait. Les gens ne se rendent pas compte, tout le monde se dit Deschamps, il arrive au bout d'un cycle. Mais Deschamps, si tu lui laisses l'équipe de France 25 ans, il va la garder 25 ans.
Hein. Oui, carrément.
Non, je pense pas. Je pense que forcément, c'est quelqu'un d'ambitieux.
Oui, Yasmine.
Il a dirigé l'équipe de France jusqu'à ce mondial-là. Mais c'est quelqu'un d'ambitieux. Donc, moi, je le vois plutôt aller manager une équipe. Je sais pas, de première ligue, le PSG peut-être.
Mais jamais.
Mais de continuer avec l'équipe de France, je pense qu'il aura. C'est bon, il a fermé la boucle.
Mais non, mais alors ça, moi c'est un truc. Alors moi c'est un truc que je comprends pas. Dans le sport en règle générale, quand on dit il a bouclé la boucle.
Ouais.
Mais attends, le mec c'est un gagnant. S'il peut en gagner une, deux Coupes du Monde, il est content. Mais s'il peut en gagner deux, il sera encore plus content. S'il peut en gagner trois, il sera encore plus content. Il s'arrêtera jamais. Est-ce que vous croyez que Rafael Nadal, il s'est dit non, c'est bon, j'ai gagné un Roland Garros, je m'arrête? Non, il en a gagné 13. Et puis s'il peut en prendre un 14e, il prend un
14e. D'un sport co là.
Non, mais c'est pareil
par rapport à un sport individuel.
Mais Deschamps, c'est pareil, c'est l'entraîneur, il est tout seul. Lui, c'est son palmarès. Là, je veux dire, qui voudrait laisser les clés de l'équipe de France, de cette équipe de France là? Elle est hyper jeune. Il y a des joueurs
incroyable.
Qui arrivent de partout.
Ouais.
Parce que quand tu vois ce qui arrive derrière, c'est énorme. Je veux dire, des générations comme ça. Potentiellement, cette équipe, elle domine pendant 10 ans. Il faudrait être un malade mental pour laisser les clés si on te les arrache.
Peut-être qu'il a juste envie de partir sur une bonne note.
Mais il n'a pas envie de partir. Qui a dit qu'il avait envie de partir? Est-ce que lui, une seule fois, il a dit qu'il voulait partir après l'inconnu du monde? Jamais.
Non,
pour le moment, jamais dit qu'il voulait partir. Faut arrêter, il est encore jeune, Deschamps. Et qu'est-ce que tu veux qu'il aille entraîner? Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne le vois pas du tout retourner dans un club. Pour aller entraîner qui, sérieusement? Le PSG? Jamais.
Revenir en Italie, peut-être.
Revenir en Italie, éventuellement l'entraîner la Juve.
Ouais.
Peut-être, c'est le seul club que je vois.
Ouais, tout comme
pourquoi pas, mais le mec, malgré tout, il est à sa place.
Oui.
Ça marche très très bien.
Aussi.
Il gagne. Il a une équipe délirante. Il a Mbappé qui est là pour 10 ans. Il y en a, et il n'y a pas que Mbappé, hein. On peut en citer 5 ou 6. Des super joueurs qui sont là pour 10 ans. Pourquoi veux-tu qu'il parte? Mais moi, jamais je le laisse, le poste.
Ah bah,
il faut me l'arracher. Ouais. Moi, le mec, il faut me débusquer si je suis à sa place.
C'est ce qui va se passer. Moment où c'est justement après la Coupe du Monde.
Mais parce que Zidane sera là. Parce que Zidane sera là. La réalité, c'est que, c'est pourquoi tu poses Zidane? Mais pourquoi Zidane? Pourquoi Zidane, il prend aucun club? C'est qu'il sait très bien que s'il prend un club, Deschamps va se démerder pour re-signer et que Le Graët sera ravi de prolonger Deschamps. C'est son
point.
Deschamps,
parce que tu vas avoir raison,
Deschamps, qu'est-ce qui se passe après? Il sera plus entraîneur. Pour moi, ce qui se passe dans son avenir, c'est président de la Fédé.
La Fédération Française de Football,
c'est comme ça qu'il va boucler la boucle.
Ah oui.
Ah, peut-être pas demain, mais à 5-10 ans, il sera président de la Fédé. Alors, je te le dis.
Ouais.
Et puis, pourquoi pas ministre des Sports? Mais je suis très sérieux.
Ouais.
C'est un mec qui, vous dites qu'il a de l'ambition? Il n'a aucune limite dans son ambition, ce mec-là.
Oui.
C'est pour ça qu'on gagne autant, c'est pour ça qu'il a toujours autant gagné. Et en plus, c'est un mec compétent.
Alors, justement,
une fois que tu as été champion du monde, tu vas pas revenir dans un club et te remettre en danger. Là, t'es l'équipe de France, tant que tu peux gagner et t'en comptes.
Mais quand c'est le PSG.
Alors, Yasmine,
que t'as justement, t'as Neymar, t'as Messi. Tu crois pas que là, il aurait une petite envie justement d'aller manager le PSG?
Excuse-moi,
sur une courte période.
En 2022, Messi, il n'existera plus, il aura 36 ans. Neymar, il est déjà
la
cramé.
La Coupe du Monde est en fin 2022, mais c'est pour ça.
Non, mais donc,
s'il reprend le PSG à la fin de la saison.
Ça sera la fin de la saison prochaine, c'est-à-dire dans un an et demi.
Oui, c'est un peu suicidaire, comme le disait
Messi. Messi ne sera plus là.
Oui, mais le PSG, ça n'est pas Messi, à Neymar.
Pour l'instant, il ne s'arrête à nulle part. Pour l'instant,
tu te dis qu'il ne pourrait pas aller au Barça, par exemple, aussi.
Mais il n'a pas l'ADN Barça, ça c'est mort. Pour le coup, le Barça ne le prendra pas en termes de style de jeu, il faut un ADN particulier, tu es obligé d'exister de leur manière de jouer. Mais on va arrêter. Le PSG. T'as vu comment ça marche en interne? Jamais Deschamps ira dans un club où il n'a pas les mains libres. Le mec s'est barré de la Juve à cause de ça. Il est parti aussi, en mauvais termes, de Marseille à cause de ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Au PSG, il n'aura pas le pouvoir. Parce qu'aucun entraîneur n'a le pouvoir au PSG. C'est certainement pas un entraîneur qui ira là-bas. Et comme il ne fait pas assez rêver le Qatar, le seul qui pourrait avoir les clés au PSG, c'est Zidane. Parce qu'il fait rêver le Qatar. Parce qu'il fait rêver, parce qu'il est maghrébin, parce que tout ce que vous voulez, parce que c'est la star, le plus grand joueur de ces 20 dernières années en France, c'est le plus grand joueur arabe de ces 20 ou 30 dernières années. Donc au Qatar, il a un écho fou. Mais Deschamps, il fait rêver personne au Qatar. Il dira vraiment le PSG. Mais alors je parie ma maison qu'il n'y signera jamais. J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est pas du tout dans son plan de carrière. Il y a un moment. Qu'est-ce que tu veux faire?
Alors.
Moi, je le vois honnêtement.
Inévitable selon toi?
Non, mais ce qui est inévitable, moi je ne sais pas ce qu'il y a à faire après la Coupe du Monde. Moi je pense sincèrement qu'il y a de vraies chances qu'ils soient encore à la tête des Bleus.
Ah oui. Après.
Moi, quoi qu'il arrive,
s'il gagne,
s'il gagne la Coupe du Monde, effectivement, je pense que.
S'il gagne, alors là.
Mais s'il perd, je suis certaine qu'il partira.
Mais
ça sera inévitable. Allez, si Deschamps.
Ce que je veux dire, c'est que Le Graët ne le laissera partir que si Zidane prend. C'est pour le seul. Ou alors désastre, ou alors fiasco, premier tour, très bien.
Ouais.
Mais s'il est en demi, s'il fait une grosse compétition, Le Graët ne le laissera jamais partir pour quelqu'un d'autre que Zidane. C'est son fils spirituel, je vous le dis sincèrement, Le Graët n'a plus rien à faire, c'est son dernier mandat. Il re-signera le dernier chèque en blanc à Didier avant de partir. Et il y a qui d'autre qui serait meilleur que lui? Moi, j'étais pas pour qu'il reste après l'Euro.
Bien sûr.
Parce que je voulais Zidane. Mais concrètement, Zidane, est-ce qu'il va attendre encore un an avant de trouver un club? C'est si demain vraiment un gros club arrive avec pognon sur Zidane, est-ce qu'il va prendre l'hypothétique? Il sait comment ça se passe, Zidane, il connaît la règle du jeu, il sait que Le Graët adore Deschamps. Est-ce qu'il va prendre le risque que janvier 2022, Deschamps ait gagné la Coupe du Monde et qu'on dise Zidane, Zinedine, t'es gentil, on re-signe Ziguet et toi t'as attendu un an et demi un club pour rien. C'est un gros risque que prend Zidane.
Ouais.
Et je pense que sincèrement, c'est le seul qui puisse remplacer Deschamps. Dans la tête de Le Graët, encore une fois.
Zidane, selon toi?
Ah, c'est le seul.
Ouais.
Le Graët ne remplacera que par lui.
Ouais. Justement, peut-être. Qu'est-ce qui manquera à cette équipe de France Yasmine, pour remporter le fameux Saint Graal, ouais, au Qatar.
Bah, il faudra retenir les leçons qui nous ont fait
l'Euro 2020,
qui nous ont fait perdre durant l'Euro 2020.
Face aux Helvètes, oui, à la Suisse.
Là, on a quand même Benzema qui du coup s'est installé à la pointe de l'attaque, qui joue du coup avec Mbappé,
pas mal, Benzema.
Griezmann. Donc là, je dirais qu'il nous manque rien finalement.
Ah, il manque un latéral droit.
Latéral droit. Eh oui.
Ah, mais c'est tout ce qui nous manque. Hein.
Et ça, derrière la
tu
défense.
Tu mets quelqu'un d'autre à la place de Pavard, ouais. Effectivement.
Mais il faut le trouver. C'est un poste très vide. Les latéral droit, c'est le poste le plus pauvre d'Europe. Les latéraux droits, il y en a très peu.
Oui.
Alors, et les Anglais en ont trois, c'est quand même pas de bol. Mais de haut niveau. Mais la réalité, c'est que c'est tout ce qui manque. Parce que ce schéma, il est parfait pour l'équipe de France, à une exception, ce poste de piston droit. Est-ce que Coman, qui est souvent blessé, et la clé est là, si Coman est capable de se prendre en main et de se dire cette année, je me muscle, je fais un truc et je deviens un défenseur crédible. C'est-à-dire juste, dans les phases défensives, être capable de ne pas être un handicap. Ça peut être la solution, mais c'est la seule. Parce que concrètement, je vois personne arriver, aller chez les très jeunes, Malo Gusto ou Timothée Pembélé, qui sont très loin encore d'avoir le niveau.
Ouais,
il n'y a personne à ce poste. Et c'est le vrai problème de l'équipe de France, c'est que cette équipe, avec Pavard, ça ne marche pas. Ce poste-là, il ne peut pas y jouer, c'est un défenseur droit. Défense centrale droit, même. Donc, c'est tout ce qui manque. Mais si on avait cette équipe, tu lui mets Kyle Walker ou Trent Alexander-Arnold de Liverpool, qui sont pour moi quasiment les deux meilleurs à ce poste, elle est invincible.
Un poste aussi important, le poste de gardien. Merci. On sait que Hugo Lloris, là, actuellement, n'est pas en très bonne forme.
Il y a toujours eu de bons gardiens en France.
Là, ce serait, je pense, assez compliqué pour lui au niveau de ce mondial. Il ne va pas arriver en pleine confiance non plus. Donc,
On disait ça avant la Ligue mondiale et puis il a fait le boulot. Et au pire, si vraiment il s'écroule, on est quand même un numéro 2 qui est très très fort. Hein.
C'est pas mal.
Maignan, c'est très très costaud.
C'est costaud. Allez, sur ces mots, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Yasmine de m'avoir accompagné, sans oublier Louis-Marie. Un bon début de vacances, de fin d'année. Voilà, passez de bonnes fêtes à toutes et tous. Vous écoutez Beurre FM, justement le programme continue avec à 22h Vanessa que vous pouvez retrouver avec Giovanni à la réalisation. Et nous on se retrouve dès lundi. Bye bye et bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.